Il est 22h, vous écoutez Europe 1. Tout de suite le journal, Isabelle Millet.
J'ai eu un choc, c'était quand même quelqu'un de bien, je trouve, moi qui étais près des gens.
L'émotion des Français qui continue de s'exprimer à travers le pays au lendemain de la mort de Jacques Chirac, notamment aux abords de son ancien domicile, mais aussi à l'Élysée, dont les portes sont restées ouvertes aujourd'hui. Et puis en Corrèze, évidemment. Jacques Chirac sera inhumé aux côtés de sa fille, Laurence, au cimetière du Montparnasse, après un hommage populaire dimanche, une cérémonie officielle et une journée de deuil national lundi. On a ce soir le détail du déroulement de ces deux journées d'hommage. Trois ministres à Rouen aujourd'hui pour tenter de rassurer les habitants au lendemain de l'incendie de l'usine Lubrizol. Agnès Buzyn reconnaît que tout n'est pas encore rentré dans l'ordre.
La ville est clairement polluée. Ça n'est jamais bon pour la population de toucher ce genre de produit.
Les écoles rouvriront lundi, mais l'inquiétude persiste parmi la population. On sera sur place. Des applaudissements cet après-midi à l'Assemblée nationale pour saluer l'adoption de l'article qui autorise la PMA à toutes les femmes.
Pour 55 contre 17, l'Assemblée a adopté.
Les députés ont donc adopté finalement, sans problème, cet article pourtant controversé de la loi bioéthique. L'inquiétude des salariés du secteur aérien alors que c'en est fini pour Aigle Azur et qu'il reste peu d'espoir pour XL Airways. À 22h20 sur Europe 1, Aurélien Fleureau sera aux côtés de la directrice générale d'Air France, Anne Rigaille, pour évoquer justement ces difficultés. Air France qui a renoncé à sauver Aigle Azur et qui ne se positionnera pas non plus pour XL Airways. Et puis le volley, bien sûr, France-Serbie, ça se passe en ce moment, demi-finale des championnats d'Europe. Cyril de la Morinerie, vous êtes en direct de l'Accor Hotel Arena de Paris-Bercy. Les Bleus qui, bonne nouvelle, ont remporté le premier set. Hein.
Oui, ils se sont imposés 25-23 dans le deuxième. C'est plus compliqué. Les Serbes ne sont plus qu'à un point de remporter cette deuxième manche.
Merci beaucoup Cyril de la Morinerie, que l'on retrouvera plus longuement évidemment à la fin de ce journal pour suivre cette demi-finale de volley France-Serbie. On ira aussi à Doha où viennent de s'ouvrir les championnats du monde d'athlétisme sous la fournaise. C'est très compliqué pour les athlètes. Côté météo chez nous en France, pas de fournaise, mais la journée de demain s'annonce agréable avant l'arrivée d'une perturbation dimanche. En clair, profitez bien de votre samedi et ne manquez pas les prévisions complètes d'Anissa Haddadi à la fin de ce journal.
Europe 1.
La France prépare donc son dernier hommage à Jacques Chirac. On va revenir dans un tout petit instant sur le détail des cérémonies qui sont prévues dans les prochains jours. Mais d'abord, retour sur cette émotion qui étreint les Français depuis hier, depuis l'annonce de la disparition de l'ancien président. Celle de Daniel, notamment, qui a souhaité se rendre cet après-midi devant le domicile du couple Chirac, rue de Tournon, à Paris.
J'ai eu un choc, c'était quand même quelqu'un de bien, je trouve, moi, qui était près des gens.
Voilà, de l'émotion, on vient de l'entendre avec Daniel au micro Europe 1 d'Élise Dangean, mais aussi cette envie de rendre hommage qui a poussé depuis hier soir des milliers de personnes à faire la queue devant le palais de l'Élysée, où ils ont pu remplir les livres d'or mis à leur disposition, livres qui seront ensuite remis à Bernadette Chirac. On a un petit problème visiblement ce soir et on vous prie de nous en excuser avec les reportages qui ne veulent pas partir. Ils sont bloqués dans la machine, mais c'est promis, on va tenter de réparer ça. Nous avons Fred en régie qui fait tout ce qu'il peut pour débloquer les boutons. En tout cas, des Français sont venus rendre hommage évidemment à leur président au Palais de l'Élysée toute la journée. On va les écouter tout de suite au micro de Victor Dolande.
Ça rappelle quand même des souvenirs d'une certaine époque. Quand on voit toutes les photos, tout ça, on se dit oui, c'était mieux avant en fait. Il symbolise une certaine idée de la France et puis une façon de vivre plus décontractée. C'était la belle vie quoi.
On a tous quelque chose de Jacques Chirac comme pour la simple raison qu'il représentait les valeurs universelles. Et chacun de nous se retrouve, n'est-ce pas? Je mets en dehors sa carrière politique. Je regarde l'être humain qui était très humain.
Des Français venus donc rendre hommage à leur ancien président cet après-midi au Palais de l'Élysée. Puis je vous le disais, on connaît désormais le détail des cérémonies d'hommage qui vont être organisées dans les prochains jours. Un hommage en plusieurs temps qui va débuter dimanche dans la cour des Invalides, Jean-Rémy Baudot.
Oui Isabelle, ça va se passer dimanche à partir de 14h. Le cercueil du président Chirac sera installé à l'entrée de la cathédrale Saint-Louis des Invalides. Le public pourra s'y recueillir. Des registres de condoléances seront par ailleurs à disposition. Le reste des hommages se déroulera lundi avec tout d'abord une cérémonie à 9h30 dans la plus stricte intimité en cette même cathédrale Saint-Louis des Invalides. Ce n'est qu'après ce temps familial que les honneurs militaires seront rendus au président Chirac dans la cour d'honneur des Invalides, en présence cette fois du président Macron. Par la suite, à 11h, le cercueil quittera les Invalides en convoi funéraire. La dépouille de Jacques Chirac sera encadrée par une grande escorte jusqu'à l'église Saint-Sulpice. 2,5 km en plein Paris, le long desquels les Français pourront saluer une dernière fois le président Chirac. À l'issue de cette cérémonie, l'ancien chef de l'État sera inhumé au cimetière du Montparnasse dans la plus stricte intimité. Il reposera aux côtés de sa fille Laurence, décédée en 2016. Pendant ce temps-là, le président Macron recevra à l'Élysée tous les chefs d'État qui auront fait le déplacement pour rendre un dernier hommage au président Jacques Chirac.
Les précisions de Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1. Lundi sera donc journée de deuil national avec une minute de silence à 15h dans les écoles et les administrations. Une circulaire encourage aussi les enseignants à consacrer un cours lundi à Jacques Chirac. Et puis on le disait, le week-end prochain, un hommage spécifique sera rendu à l'ancien président, cette fois en Corrèze. C'était très important pour les Corréziens qui se sentent orphelins, comme Noël qui se souvient d'un président humain et accessible.
C'est tout à fait lui, ça, l'œil pétillant, coquin. Ah ouais, c'est lui, ça. Il passait là, tout simplement. Il n'était pas encadré de 20 voitures qui le suivaient, quoi. Il était beau, et puis c'était un mec sympa. Et il était ouvert à tout le monde, et il nous collait la bise comme du bon pain, quoi. Il venait ici, taper la causette à tout le monde, lui, pour sa bière.
Aujourd'hui, est-ce que vous êtes habité par une forme de tristesse ?
Non, tristesse, non, parce que je pense que c'est une délivrance. Mais c'est vrai que ça fait un petit pincement au cœur de ne plus l'entendre. Voilà, c'est tout.
Le pincement au cœur de Noël corrézienne, elle était au micro Europe 1 de Stéphane Place. Alors, des hommages, on en a entendu beaucoup hein, depuis hier midi, depuis l'annonce du décès de l'ancien président, des anonymes et des personnalités. Mais cette voix-là, c'est la première fois qu'elle s'exprime.
Je suis triste, parce qu'en plus, je le connaissais personnellement. Il a été notre président, mais il a été surtout le président de tous les sportifs et l'ami de tous les sportifs. Je pense qu'il adorait les gens, même les plus retirés dans les campagnes. Et il a toujours démontré ça. Et ce que j'ai envie de me rappeler de lui, c'est peut-être les petits moments qu'on a eus où il parlait justement, enfin, ça le sortait de la politique, où il était content de parler d'autre chose. Et ça se sentait. Donc un très bon souvenir de lui. Et ce que je dis pour terminer, c'est toutes mes condoléances à toute sa famille.
Je pense que vous l'avez reconnu, les mots de Zinedine Zidane, Zizou au micro du correspondant d'Europe 1 à Barcelone, Henri Delaguerie. Notez que la Fédération française de foot a souhaité que des minutes de silence soient observées en ouverture de chaque match ce week-end. Ce sera pareil sur les terrains de rugby. Et puis sachez que le Liban décrète lui aussi une journée de deuil national lundi et que le pape François a à son tour exprimé cet après-midi ses condoléances aux Français après la mort de leur ancien président.
Europe 1, le journal de la nuit, Isabelle Millet.
Merci d'écouter Europe 1, il est 22h07, c'est la suite de votre journal. Et à Rouen, au lendemain du spectaculaire incendie de l'usine Lubrizol, la population reste très inquiète. Il faut dire que des hydrocarbures, des huiles de moteur ont brûlé toute la journée sur ce site classé Céveso avec un panache de fumée sur plus de 20 km. De la suie s'est déposée un peu partout. Trois ministres ont fait le déplacement sur place aujourd'hui pour tenter de rassurer la population. Celui de l'éducation nationale a promis que les écoles pourraient rouvrir dès lundi après un nettoyage complet. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, elle aussi sur place, n'a pas cherché à nier les inquiétudes de la population.
La ville est clairement polluée. S'essuie, il faut imaginer cela comme une pollution comme des galettes, par exemple, de goudron sur les plages. Si on voit des galettes de goudron sur les plages, on demandera aux enfants de ne pas les toucher et de se laver les mains. Eh bien, c'est la même chose que nous demandons aux riverains aujourd'hui. C'est-à-dire de nettoyer ces suies, ces galettes, ces saletés, visuellement très repérables, en prenant des précautions, notamment en mettant des gants. C'est une usine qui produit des hydrocarbures, même s'ils ne sont pas en grande quantité, même s'ils sont très proches des seuils, ça n'est jamais bon pour la population de toucher ce genre de produit.
La ministre de la Santé, cet après-midi à Rouen, Agnès Buzyn, qui évoque donc cette pollution que les habitants constatent eux-mêmes depuis leur réveil ce matin. La ville est entièrement recouverte d'une pellicule noire.
Ah bah pour moi, c'est comme si j'étais à côté de la cuvée à fioul ou en train de faire de l'essence et puis je respire quand je mets de l'essence dans le réservoir de la voiture.
Là, au niveau de la tonnelle, il y a de la suie qui coule. La piscine, comme vous voyez, elle est toute noire. Vous voyez, on en a plein les doigts. On a promené le chien qui avait les pattes toutes noires dans la pelouse.
Ça ressemble pas vraiment à de la suie, en fait.
On ne sait pas trop ce que c'est.
Voilà des témoignages recueillis à Rouen tout à l'heure par Justin Morin. L'Assemblée nationale a voté cet après-midi, sous les applaudissements, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Vous savez que c'est la mesure phare du projet de loi bioéthique. Elle a été adoptée par 55 voix contre 17 et 3 abstentions. Ève Roger, c'est une réforme sociétale d'ampleur et finalement, Ève, ça n'a pas été si compliqué.
Non, au bout d'un peu plus de 3 jours de débat et 600 amendements, c'est fait, l'article phare de la loi de bioéthique a été voté un peu avant 13h. Alors c'est vrai, ça s'est plutôt bien passé, le timing a été respecté, même si ça a coincé sur plusieurs points. D'abord, les mères seules, beaucoup de débats sur le thème. Est-ce qu'on peut vraiment encourager une femme célibataire à concevoir et élever un enfant seul? Et puis surtout, la PMA post-mortem, la possibilité pour une femme d'utiliser les gamètes de son mari pour faire un enfant alors qu'il est mort. Il a fallu 4 heures de débat intense pour finalement maintenir l'interdiction de cette PMA post-mortem. Et vous allez comprendre pourquoi le débat a été vif. Avec la nouvelle loi, cette veuve devenue célibataire va maintenant avoir le droit d'utiliser le sperme d'un autre pour avoir un enfant, mais pas celui de son mari défunt.
Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1, et notez que l'Assemblée nationale a également voté ce soir, il y a un petit peu moins d'une heure, l'article du projet de loi bioéthique qui permet l'autoconservation de gamètes pour des grossesses futures, aux grandes dames de la droite qui a dénoncé d'éventuelles pressions professionnelles et le risque de grossesses tardives. Cette fois, c'est vraiment la fin. Aucune offre de reprise n'a été retenue pour sauver la compagnie aérienne Aigle Azur qui cessera donc ses activités ce soir à minuit. Je vous rappelle que d'ici quelques minutes, Aurélien Fleureau reçoit la directrice générale d'Air France, Anne Rigaille, pour évoquer justement les difficultés dans l'aérien. Air France qui a renoncé à sauver Aigle Azur et qui ne se positionnera pas non plus pour XL Airways. Ce soir, une quinzaine de syndicats du personnel du transport aérien appellent le gouvernement à venir en aide à leur secteur et à réfléchir sur la stratégie qui demain sortira le transport aérien français de la trajectoire mortifère dans laquelle il s'est engagé. C'est ce qu'écrivent ces syndicats dans une lettre ouverte au secrétaire d'État au transport. La présentation ce matin au Conseil des ministres du budget 2020, post-crise des gilets jaunes, axée sur le pouvoir d'achat. Il prévoit des baisses d'impôts pour les ménages, mais peu d'efforts sur le déficit et des entreprises mises à contribution. L'État, propriétaire du Stade de France, confirme qu'il n'entend pas prolonger la concession d'exploitation du consortium formé par Vinci et Bouygues après 2025. Il souhaite en effet une meilleure implication des fédérations de foot et de rugby. Ce contrat a souvent été jugé défavorable aux finances publiques. Voilà qui nous amène au sport et on va tout de suite rejoindre Cyril de la Morinerie à l'Accor Hôtel Arena de Paris-Bercy où se joue un match capital en ce moment pour les Bleus. La demi-finale contre la Serbie. On était bien parti Cyril, mais là c'est moins bien. Un partout.
Oui.
Hein.
Puisque nous sommes à 1-7 partout, effectivement. Le premier set a été remporté 25-23 par les Français. Et puis dans le deuxième set, eh bien les Bleus ont compté jusqu'à 8 points de retard sur les Serbes. Ils sont revenus à 1 point, mais malheureusement pour eux, eh bien ils s'inclinent dans cette deuxième manche 25-23. Le troisième set vient de commencer. Là, ça va un peu mieux pour les Français qui ont bien commencé. En tout cas, juste avant le match, eh bien des sifflets provenant de la tribune serbe ont perturbé l'hommage à Jacques Chirac. Il faut savoir que Jacques Chirac s'était rapproché de Bill Clinton pour mettre fin au massacre perpétré par l'armée serbe du président Milosevic. Il s'est abouti aux accords de Dayton. Est-ce que ça a un rapport avec ça? En tout cas, c'était évidemment, ces sifflets étaient très malvenus. C'était juste avant le match. Et là, en tout cas, l'ambiance est très très belle à Bercy de la part des supporters français qui encouragent comme ils le peuvent cette équipe de France qui est donc à 1-7 partout face aux Serbes. On rappelle que ça se joue, c'est celui qui gagne les 3-7, c'est en 3-7 gagnant, hein. L'équipe
qui a remporté
3-7 eh bien, s'impose dans cette partie 1-7 partout.
Merci beaucoup Cyril de la Morinerie pour toutes ces précisions. Vous savez quoi, on vous retrouvera d'ici 22h30 pour faire un nouveau point évidemment sur cette rencontre capitale pour les Bleus. Autre rendez-vous sportif, le coup d'envoi des mondiaux d'athlétisme à Doha au Qatar. Ça commence fort pour la Française Alexandra Tavernier qui s'est qualifiée pour la finale du lancer de marteau dès son premier jet. Cocorico aussi pour la perchiste Ninon Guillon-Romarin qualifiée elle aussi pour la finale du saut à la perche. Tandis qu'au 100 mètres, Jimmy Vico se qualifie pour les demi-finales. Vous savez que ces championnats du monde se déroulent dans des conditions climatique extrême et dangereuse, en particulier pour les marcheurs et les coureurs de fond. La chaleur, gros défi pour les athlètes, 40 degrés, une énorme humidité, d'où ces stades climatisés qui ont créé la polémique pour leur bilan carbone fort peu écolo. Mais tout ne se passe pas dans les stades, il y a aussi des courses qui vont se dérouler en pleine nuit. Le Français Johan Diniz, champion du monde de 50 km marche, est dépité par ces conditions.
Mes premières impressions en arrivant ici, c'est qu'est-ce que je fais là, clairement. À quoi ça sert de m'être autant préparé pour en fait assister à un peu à servir de cobaye ou être dans des jeux du cirque, en tout cas pour les disciplines hors stade où là j'ai vraiment l'impression qu'on est vraiment pris pour des clowns quoi, voilà, en étant poli. On va regarder ce qui va se passer ce soir sur le marathon féminin, mais je prendrai pas de risque, ça c'est clair.
On est pris pour des clowns, dit le français Yoann Diniz au micro de Corinne Bouloul, l'envoyé spécial d'Europe 1 à Doha. En cyclisme, Chris Froome, le quadruple vainqueur du Tour, qui avait été, vous le savez, grièvement blessé en juin, reprendra la compétition fin octobre. Le Britannique avait lourdement chuté à l'entraînement. Il souffrait de 5 fractures. Il avait dû faire une croix sur le Tour de France. Eh bien, il va donc remonter sur son vélo après 4 mois sans compétition. On jette un œil tout de suite sur la météo de notre week-end avec vous, Anissa Haddadi. Et la journée de demain sera plus agréable que celle de dimanche.
Oui, c'est ça, un week-end en demi-teinte, hein, Isabelle, puisque la journée de demain s'annonce agréable avant le retour d'une perturbation par l'ouest dimanche. Alors demain, sur le Cotentin, la Bretagne, le Nord et les Ardennes, les nuages seront nombreux et porteurs de petites averses. Partout ailleurs, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies et c'est au sud de la Loire, le long des côtes aquitaines, dans le sud-ouest, le massif central, la région Rhône-Alpes, sur le littoral méditerranéen et la Corse. C'est là que vous aurez une très belle journée de samedi, avec dans l'après-midi de belles apparitions du soleil. Sur les côtes de la Manche, la mer du Nord et les côtes corses, là le vent d'ouest va encore souffler, hein, demain jusqu'à 60 km/h. Les températures demain, 10 à 19 degrés le matin du nord au sud. Il y aura 10 à Dijon, 19 à Perpignan. Et puis au meilleur de la journée, demain après-midi, nous aurons 18 à Aurillac, 20 à Caen, Nantes, Saint-Étienne et Paris, 22 degrés à Bordeaux et jusqu'à 28 degrés à Nîmes.
C'est pas mal, 28 degrés à Nîmes. La météo signée Anissa Haddadi.
Europe 1.
Et dans un instant, vous serez tous sur la bourse avec Claire Lemaître de Boursier.com, juste avant l'invité d'Aurélien Fleurot qui reçoit ce soir la directrice générale d'Air France. Interview enregistrée à bord du tout nouvel A350. A tout de suite sur Europe 1. Il est 22h17, merci d'écouter Europe 1. On s'intéresse tout de suite à la bourse et c'est avec vous Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Isabelle.
Et l'optimisme qui est retombé brutalement à Wall Street ce soir à cause de Donald Trump.
Oui. Toujours lui. La fin de semaine est difficile avec un nouvel épisode dans la guerre commerciale. Le Dow Jones cède 0,26% à 26 780 points. Le Nasdaq est plus sévèrement touché, moins 1,3%, 7 920 points. Alors pour le moment, c'est juste une rumeur, mais elle pèse beaucoup. Donald Trump envisagerait d'obliger des entreprises chinoises cotées sur les marchés boursiers aux États-Unis à s'en retirer. L'idée plus globalement, c'est de limiter les investissements financiers américains dans des groupes chinois, d'assécher en fait leur financement. Mmh. Alors bien sûr, les entreprises chinoises cotées à Wall Street accusent le coup. Le titre du géant chinois du e-commerce Alibaba plonge de 5,2%. Baidu, le Google chinois, perd 3,6%. On craint ce soir une nouvelle escalade dans cette guerre commerciale. Le pétrole recule à New York, moins 0,9%, 55,91 $ le baril. Et l'euro remonte de 0,2%, 1,0943 $.
Et la semaine se termine dans le calme pour le marché parisien cette fois.
Oui, une semaine compliquée qui se termine pas si mal, mais c'était avant les dernières rumeurs dans la guerre commerciale. Le CAC 40 gagne 0,36%, 5641 points. On reste tout de même sur un bilan hebdomadaire négatif. Le CAC 40 a perdu 0,9% sur la semaine. ArcelorMittal s'est démarqué aujourd'hui. Le premier sidérurgiste mondial pourrait se séparer de certaines de ses activités de minerai de fer. Il cherche en fait à réduire sa dette en se désengageant d'activités non stratégiques. ArcelorMittal gagne 2,7%. Et puis en hausse également, Bouygues, plus 2,4%, qui profite d'une note de la Société Générale qui conseille désormais d'acheter des titres Bouygues.
Et puis cette nouvelle qui devrait faire plaisir à l'invité d'Aurélien Fleurot dans un petit instant puisqu'il reçoit la directrice générale d'Air France. Une belle fin de semaine aussi pour Air France KLM. Hein.
Oui, Air France KLM termine dans le vert et gagne 3% sur la semaine. La faillite de Thomas Cook, la liquidation judiciaire d'Aigle Azur et le placement en redressement judiciaire de XL Airways devraient déboucher sur des capacités moins importantes dans le ciel européen et donc à de probables hausses de prix. Donc Air France pourrait profiter en fait des déboires de ses concurrents. Les marchés européens ont terminé la semaine sur une note positive. Londres grimpe de 1%. Francfort gagne 0,8%, plus 0,3% pour Milan, plus 0,6% pour Madrid, plus 0,1% pour Amsterdam et le CAC 40 avance de 0,4%, 5641 points.
Merci beaucoup et très bon week-end à vous. Claire Lemaître de Boursier.com. Et c'est l'heure de l'invité écho avec Aurélien Fleurot ce soir. Aurélien, vous recevez la directrice générale d'Air France.
Bonsoir Anne Rigaille.
Bonsoir.
Vous êtes la directrice générale d'Air France. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 et surtout merci de nous recevoir puisque nous ne sommes pas dans les studios d'Europe 1 à Paris. Nous sommes en très haute altitude quelque part entre Toulouse et Paris à bord du vol inaugural du tout premier A350 d'Air France. Qu'est-ce que ça représente pour vous et en quoi c'est stratégique pour la compagnie ?
Alors déjà, c'est un magnifique jour pour nous et pour les centaines de collègues qui sont à bord de cet Airbus A350, hein, tous les métiers d'Air France qu'on a invités pour, je dirais, prendre plaisir et célébrer l'arrivée de cet Airbus 350. C'est un avion qui montre notre volonté d'innovation. C'est un avion qui va avoir des bénéfices majeurs en termes économiques, en termes environnementaux et en matière de confort à bord. En termes économiques et environnementaux, c'est un avion qui consomme 25% de fuel en moins et donc 25% d'émissions de CO2 en moins. Donc le renouvellement de notre flotte, c'est vraiment le premier levier pour réduire notre empreinte carbone. Donc nous sommes très heureux, nous allons recevoir 28 de ces appareils d'ici à 2025. Et d'ici à 2025, 50% de notre flotte sera composée d'avions de nouvelle génération qui sont évidemment beaucoup moins consommateurs. C'est aussi un avion qui va offrir un très beau confort à nos clients.
Déjà, justement, décrivez-nous un petit peu, là on y est, qu'est-ce que côté passager ça va changer ?
Alors déjà, vous pouvez le voir, on fait une interview à bord et donc il est plutôt silencieux, on n'est pas gêné du tout. Côté passager, on va offrir une très belle expérience au meilleur standard. Vous avez vu notre nouveau siège business qui permet de bénéficier d'un lit de 2 mètres entièrement plat. Donc c'est un avion qui va couvrir toutes les destinations long courrier d'Air France en premium économie, 24 sièges avec un nouveau siège qu'on appelle un siège recliner qui permet vraiment de pouvoir incliner son siège de manière à pouvoir vraiment se reposer. Et si vous l'essayez, je crois que vous l'avez essayé tout à l'heure.
Je confirme.
Crois qu'on peut, voilà, vraiment dormir à bord de ce siège premium, ça va offrir beaucoup de confort à nos clients. Et en cabine économie, 266 sièges qui bénéficient des sièges de dernière génération avec des mousses ergonomiques pour plus de confort. Et c'est un moment de plaisir et de détente.
Anne Rigaille, vous êtes donc la directrice générale d'Air France. Impossible de ne pas vous interroger sur l'actualité du secteur aérien en crise, hein, sur l'aspect français. Deux compagnies en faillite en quelques jours. Votre nom, en tout cas le nom d'Air France, est beaucoup revenu. Est-ce que Air France peut, doit sauver les compagnies françaises en difficulté ?
Alors écoutez, nous avons déjà, nous ne sommes pas du tout indifférents à ce qui se passe et aux évolutions qui touchent ces compagnies françaises ainsi que leurs salariés, bien sûr. Nous avons étudié, en particulier dans le cadre des glazures, si nous pouvions faire une offre. Nous nous sommes heurtés assez vite à des obstacles à la fois financiers, mais également de nature juridique et sociale. Et nous avons considéré que nous ne pouvions pas faire une offre qui pourrait mettre en danger finalement le respect de nos accords internes et le dialogue social et la confiance qui, je crois, est retrouvée chez Air France depuis un an. Donc nous avons décidé effectivement qu'il était difficile de mettre en danger cette confiance.
Malgré la cohérence que pouvait avoir sur certains aspects Aiglazur avec une offre commune avec le groupe Dubreuil et côté XL Airways, là pour le coup, vous ne voyez pas forcément de raison de répondre à la demande, un peu à l'exhortation du PDG d'XL Airways, Laurent Magnin, qui demandait à Air France de sauver sa compagnie.
Bah, disons que dans le contexte économique actuel, toutes les problématiques auxquelles font face les compagnies, que nous considérons que ça ne fait pas partie de nos priorités. Nous considérons que le transport aérien français et européen est encore très fragmenté, très concurrencé. Sur Paris, New York, nous avons 10 compagnies en concurrence. Nous ne connaissons pas d'autres routes, même au départ des villes les plus importantes au monde, qui soient aussi concurrentielles. Donc clairement, pour nous, il y a un sujet de consolidation du transport aérien.
Et d'ailleurs, est-ce que vous demandez au gouvernement français aussi de faire un petit peu évoluer les choses ? On a beaucoup parlé des assises du transport aérien. Le constat a été fait, hein. Les compagnies françaises ont plus de taxes que leurs concurrentes européennes notamment et même dans d'autres continents. Est-ce que vous espérez que ça puisse évoluer un petit peu sur ce constat que tout le monde fait, mais sans évolution ?
Oui, je crois que l'ensemble des compagnies françaises ont demandé à ce que le poids des taxes et des charges soit un peu plus cohérent avec celle des compagnies à l'international ou même en Europe. De ce point de vue, les assises finalement ont amené quelques réponses, mais l'écotaxe qui est en projet revient finalement à annuler les quelques résultats issus des assises. Et si nous considérons qu'évidemment l'environnement est une problématique qui nous touche tous et nous sommes extrêmement engagés en tant que compagnie aérienne, mais également en tant qu'industrie, dans le fait de dessiner une route vers un transport aérien plus durable, nous considérons que ces taxes additionnelles ne nous donnent pas forcément les marges de manœuvre d'accélérer le renouvellement de notre flotte et pourraient être dirigées vers justement des investissements dans des avions plus verts, des investissements dans un biofuel qui aujourd'hui reste un petit peu inaccessible pour les compagnies compte tenu de son coût et qui n'existe pas en France. Donc, des taxes à la limite, pourquoi pas, même si en France, ça n'aidera pas un transport aérien déjà très taxé, mais dirigé vers les efforts que nous devons faire pour avoir un transport aérien plus durable.
Merci Anne Rigail, directrice générale d'Air France, pour cette interview en très haute altitude. Et on retrouve l'interview écho avec Emmanuel Dutheil dès lundi à 22h20.
Interview dans les airs, en effet. Merci beaucoup à vous Aurélien Fleureau. Et puis dans un instant, on va jeter un œil sur les unes de vos quotidiens. Quels sont les sujets que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant? A tout de suite sur Europe 1. Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Rouen, sale angoisse, dit le titre le journal Libération, avec une photo représentant la ville de Rouen sous un immense nuage de fumée noire. Une ville clairement polluée, dit la ministre de la Santé qui s'est rendue sur place ce soir. Des sols souillés d'après les agriculteurs. La population redoute les conséquences de l'incendie du site Seveso et attend enfin des réponses. Le nombre de ministres expédiés en 2 jours à Rouen, pas moins de 4, montre que le pouvoir politique prend très au sérieux l'incendie de l'usine Lubrizol. Ce n'est pas l'ampleur des dommages causés sur l'environnement et la santé qui est ici en cause. Il est un peu tôt pour la déterminer avec certitude. Les autorités se montrent pour l'heure rassurantes, mais plutôt la perception que la population peut en avoir. Ces incendies d'usines chimiques sont facilement source d'angoisse, nous rappelle Libération. On se souvient que la tragédie d'AZF avait traumatisé une région entière et au-delà. Beaucoup de vos journaux reviennent encore évidemment sur la disparition de Jacques Chirac, notamment le journal La Montagne, où Pascal Ratineau raconte cette anecdote savoureuse rapportée dans un livre de mémoire par un Chiracien de Brive. Anecdote qui dit tout du rapport des gens à Jacques Chirac. Un beau matin, un élu d'une petite commune de la Corrèze appelle le grand à Paris. Il a besoin d'une faveur personnelle pour son fils. Après les salutations d'usage, il expose le problème. En moins de 5 minutes, Chirac lui répond, considère que c'est réglé. Mais avant de raccrocher, il lui demande, au fait, pourquoi tu n'as pas appelé le préfet ? Réponse de l'élu, j'ai pas osé le déranger. Voilà ce que les Corréziens savaient de Jacques Chirac et que les Français ont découvert sur le tard. Derrière le vernis du clientélisme, derrière l'impitoyable animal politique, Chirac dégageait naturellement de la chaleur humaine. Il aimait les gens, tout simplement. Ne cherchons pas plus loin, écrit Pascal Ratineau, l'émotion que suscite sa disparition. L'émotion et le recueillement, également à la une du Figaro, qui publie une photo de la très longue file d'attente depuis ce matin devant le palais de l'Élysée, où ceux qui le souhaitaient pouvaient venir écrire sur des cahiers de condoléances. Voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Et on repart tout de suite, comme promis, à l'Accor Hotel Arena. Retrouvez Cyril de la Morinerie qui suit cette demi-finale des championnats d'Europe de volley. La France contre la Serbie. Gros suspense, hein, Cyril. C'est très serré.
Oui, match très disputé en effet entre la France et la Serbie. Il y a un set partout. Le premier a été remporté par les Français. Le deuxième concédé par les Bleus. Et dans le troisième, les deux équipes sont au coude à coude. À l'instant, les Français viennent de prendre à l'avantage, même s'il y a un challenge. Donc on va regarder la vidéo pour voir si les Serbes peuvent récupérer le point ou faire annuler le point remporté à l'instant par les Français. Ervin Ngapet, qui est la star de cette équipe, a marqué 13 points depuis le début de cette partie. Ils sont en rendez-vous, les Bleus. Ils savaient qu'en face, la Serbie pouvait les inquiéter, mais ça sera évidemment assez dur. Il faudra aller peut-être tout au long de cette soirée pour aller décrocher une place en finale de cet Euro.
Et ça tombe bien parce qu'on a toute la nuit pour vous retrouver, Cyril. Le prochain rendez-vous avec vous, ce sera à 23h évidemment sur Europe 1 pour cette demi-finale France-Serbie pleine de suspense. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1. Vous êtes en compagnie de Sabine Marin pour votre libre antenne. Bonsoir Sabine.
Bonsoir à vous Isabelle.
Très belle soirée à vous Sabine et à tout à l'heure.
Merci, à tout à l'heure.